Et la jeunesse, bordel!
Il faut intéresser le jeune. N'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante, bon, qui a besoin à la fois d'être canalisée, mais libérée en même temps. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune?
Le Covid, c'est la double peine pour la jeunesse. Confinée pour protéger les plus anciens, soit. Mais c'est elle qui, malgré ce sacrifice, paye derrière la crise sociale. Le Covid devient ainsi le révélateur d'une jeunesse écrasée depuis des années.
Par François Ruffin. On les voit de plus en plus.
C'est Patrice Blanc, le président des Restos du Cœur, qui témoigne à la radio.
Une image qui m'a bouleversé, c'est de les voir, ces jeunes, arriver chez nous avec leur tenue du bérite. C'est-à-dire qu'eux-mêmes apportent à manger, mais ils n'ont pas à manger pour eux. Ça m'a scié. On a eu à Paris, à la Cité internationale, un appel au secours pour dire « Venez nous aider, mettre en place un centre pour les étudiants de la Cité internationale. »
Mesure-t-on l'injustice ? En quoi consistent le confinement et le reconfinement ? Disons-le sans pincettes, à enfermer les jeunes pour protéger les plus âgés, à fermer leurs facs, leurs bars, leurs boîtes, à les priver de sortie, en cet âge où les hormones bouillonnent, pour qu'ils ne contaminent pas leurs aînés. Soit. On pourrait les remercier pour ça, pour leur acceptation, pour leur civisme du printemps et de l'automne. On devrait les récompenser. Mais à la place, que se passe-t-il ? Ils sont punis. Socialement, économiquement punis. Non seulement on les confine, mais ce sont eux qui prennent la crise en première ligne. Avec le coronavirus, 39% des jeunes ont perdu des revenus, pourtant déjà maigres auparavant. Un taux qui grimpe à 72% parmi les jeunes actifs. 42% craignent pour leur loyer. 53% ont renoncé à une alimentation saine et équilibrée. 32% des jeunes femmes peinent à acheter des protections hygiéniques, etc. C'est la double peine, confinée et appauvrie. Tout indique que, parmi le million de pauvres en plus de l'année 2020, ils devraient former un gros bataillon. Dans une France qui, en même temps, fait 100 milliards d'euros d'épargne au Covid. Une épreuve, c'est une occasion de s'élever, de se grandir. Après la Seconde Guerre mondiale, sans doute la plus terrible de nos épreuves, à la sortie de la nuit nazie, dans une France exsangue, qu'ont décidé nos anciens de mettre en place
un vaste plan de sécurité sociale.
Avec notamment les retraites. Et ce fut un miracle. Depuis des millénaires, vieillesse signifiait pauvreté dans les milieux populaires. On vieillissait, quand on avait la chance de vieillir, au crochet de ses enfants, et subsistant de la charité. Et voilà qu'en 30 ans, cette malédiction séculaire était brisée. Dès les années 1970, le taux de pauvreté chez les personnes âgées passait sous la moyenne nationale. Et pourquoi, comment ? Parce qu'on était passé d'une solidarité familiale à une solidarité nationale, à une solidarité sociale. C'est le même mouvement qu'il nous faudrait produire aujourd'hui pour la jeunesse. Car les statistiques se sont inversées. Chez les moins de 30 ans désormais, le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé que chez les plus de 65 ans. Et ce, malgré le soutien des parents, des grands-parents. 70% des jeunes sont aidés financièrement, un peu ou beaucoup selon les fortunes, les uns qui paient le loyer des enfants pour leurs études, ce fut mon cas, les autres qui sont dépannés d'un sac de courses. Cette solidarité familiale, inégale, ne suffit pas. Là encore, il nous faudrait aller vers une solidarité sociale, une solidarité nationale, rouvrir une espérance pour la jeunesse et en tirer pour tout le pays une fierté, une respiration vers le futur. Plutôt qu'une résignation.
Quoi donc ?
Le minimum serait un filet de sécurité, le RSA, Revenu Social d'Activité étendu au moins de 25 ans. Et je veux bien qu'on prenne au sérieux le A de activité, que cette allocation jeunesse soit conditionnée à un engagement dans la société, dans les études, dans une formation, une association, que ce pécule ne participe pas d'une désaffiliation. Même si c'est la pauvreté qui, aujourd'hui, entraîne souvent un isolement. Mais 559,74 €, qui ça fait rêver? Ça ne remplit qu'à peine le frigo, pas du tout les cœurs. Gagner sa vie, soit. Encore faut-il lui donner un sens aussi. Et lui donner un sens par temps d'effondrement du vivant. L'avenir est à réinventer. Et donc les emplois d'avenir que le marché seul, ne remplira pas. Des conciergeries dans les quartiers, à la campagne des replantages de haies, des ateliers de réparation, d'électronique, d'électroménager, dans chaque canton.
On en est loin.
Le président, le gouvernement, ne met en œuvre aucun plan de secours, aucune mesure d'urgence. Rien, à part 6 milliards de...
Baisse des charges.
Une manie.
Baisse des charges pour l'embauche d'un apprenti.
Ou encore...
Baisse des charges pour le recrutement des moins de 25 ans.
150 €, non pas par mois, mais 150 € une fois, pour Noël. Et le resto U à 1 €. Comment comprendre cette inaction, cette indifférence? Comment se fait-il que cette injustice, cette double peine Covid, ne suscite chez les jeunes dans la société aucune révolte?
S'il ne fait aucun doute que les révoltes ont existé,
écrivait Max Weber,
ce qui appelle manifestement une explication, c'est surtout le fait qu'elle n'ait pas été plus nombreuse.
Des écrasements se cumulent, se conjuguent, je crois. Et au risque de plomber, je vais les lister ici. L'écrasement démographique.
C'est un fait absolument majeur, une inversion historique. La France compte aujourd'hui moins de 15-30 ans, 17%, que de 65 ans, 20%. Certes, moins que nos voisins espagnols, italiens ou allemands. Mais notre pays est vieillissant. Or, les sociétés qui se révoltent sont des sociétés jeunes. En 1968, la France comptait 23% de 15-30 ans et 26% en 1789. Notre nation était alors la plus jeune d'Europe. La Tunisie du printemps arabe, 30%. C'est l'élément fondamental au fondement à la base. En l'occurrence, ce qui est rare n'est pas cher, contrairement à une intuition de marché. Côté démographie, ce qui est rare est dominé.
Encadré. Amanda, étudiante en chinois.
Je compte tout le temps. J'ai passé les 2 mois de confinement ici.
Dans ces 18 mètres carrés?
Oui. J'étais déprimée, mais j'avais trop peur de ramener le virus chez moi. J'ai des proches asthmatiques.
Amanda, étudiante en langues étrangères, anglais et chinois, est la première de sa famille, père, mère, frère, tout compris, à entrer à l'université. Boursière, presque au grade le plus élevé. 480 € par mois, 300 € restants après loyer et APL.
Pendant l'année, normalement, j'ai 2 boulots de babysitter. Un le matin, à 7h, il faut que je me lève à 5h30, que je prenne le bus à 6h20 et je suis chez la personne vers 6h50. Je dépose le petit garçon à l'école à 8h30 et ensuite, soit je vais en cours, soit je reviens ici. Et le soir, entre 16h45 et 18h45, parfois plus tard. Mais pendant le printemps, forcément, ces petits boulots se sont arrêtés. Heureusement, les profs ont très vite mis sur pied une association qui livrait des colis repas. Ça a sauvé pas mal de monde.
Tu veux dire que sans ça, tu aurais du mal à manger?
Je compte tout le temps. J'achète pas de viande.
Tu es végétarienne?
Non, pas du tout. Mais mon budget court, c'est contraint. Quand je veux me faire plaisir, j'achète un morceau de viande.
Mais ça doit avoir des effets sur tes études, ta santé même.
De toute façon, on ne va pas chez le médecin. Il faut avancer 25 €, c'est une semaine de course. Une fois, j'avais une énorme gastro. J'étais vraiment très malade. Je suis quand même allée à la fac. Sinon, ils peuvent signaler mes absences au CROUS. Et comme je n'ai pas de certificat médical, ils auraient peut-être suspendu ma bourse. Il n'y a qu'une fois, le dentiste. Je pouvais plus éviter. J'avais une carie qui tournait à la rage de dents. Ça m'a coûté 120 €. Et quand il m'a annoncé le prix, j'ai cru que j'allais mourir. Il n'y avait que 60 € de remboursé. Heureusement, ma mère a pu me dépanner.
Tu les vois souvent, tes parents? Ils t'aident un peu?
Avant, je rentrais chez eux tous les week-ends. C'était quand ils m'aidaient. Mais là, ils ne peuvent plus, vraiment plus. Ils ont eux aussi des galères. Donc j'y retourne une fois tous les 2 mois. Déjà, j'ai mon abonnement au TCL, les bus de Lyon à payer. C'est 32,50 € par mois. Mais l'aller-retour chez moi à Tarare, 11,20 € avec les réductions. Je peux pas.
L'existence d'Amanda est contrainte, économiquement contrainte. Elle ne ressemble pas à la vie étudiante un peu bohème telle qu'on l'espère, ce temps où l'on se consacre à ses études, où aussi l'on s'ouvre au monde, où l'on vogue de rencontres en découverte. Je ne veux pas néanmoins la dépeindre en victime, donner le sentiment qu'elle subit, que ses journées ne seraient que spleen et mélancolie. Son destin, elle le maîtrise, au moins en partie, par son engagement à l'occasion dans des associations pour organiser des soirées jeux de rôle, des vide-greniers, du geek, la zombie walk, etc. Par son choix, surtout, de prendre une année de césure en service civique pour devenir
ambassadrice du livre
auprès des jeunes, pour réfléchir à son avenir, à son orientation, devenir enseignante.
L'écrasement politique.
Non seulement les jeunes sont moins nombreux, mais en plus ils votent peu. L'abstention y est deux fois plus importante en moyenne que chez les plus âgés. 73% aux européennes, contre 33% chez les plus de 60 ans. 70% municipales, contre 38% chez les plus de 60 ans. 64% législatives. Et même les présidentielles ne font plus recette. 34% d'abstention, contre 19% chez les plus de 60 ans. Quel intérêt électoral pour un politique d'engager un plan d'action coûteux, ambitieux, pour une jeunesse qui ne se rendra pas aux urnes? Quand le troisième et quatrième âge, eux, continuent de voter malgré le risque Covid. Je suis élue. Et je sais combien, quotidiennement, psychologiquement, ces calculs pèsent dans l'ordre des priorités. Et jusqu'au sommet.
Je voulais vous dire,
confiait Emmanuel Macron l'an dernier à Amiens,
je voulais vous dire qu'au fond, nous n'avons pas de politique à avoir pour la jeunesse.
Imagine-t-on le même propos, un peu désinvolte, face à une jeunesse nombreuse, mobilisée, qui compterait dans les isoloirs? L'écrasement professionnel.
60% des intérimaires ont moins de 35 ans. Le taux de chômage avoisine 20% chez les 18-24 ans, contre 6,3% chez les plus de 50 ans. 38% travaillent avec un contrat précaire, contre 13% dans la population active. On pourrait aligner les statistiques qui illustrent cette évidence. La
flexibilité,
instaurée depuis 3 décennies, ce sont d'abord les jeunes qui le paient, eux qui entrent sur un marché du travail féroce. Avec, même pour les diplômés, une succession de stages, CDD et maintenant, de situations d'auto-entrepreneur. Le niveau de qualification a continué à progresser, mais cet investissement éducatif n'a plus d'effet, au moins en début de carrière. À 30 années d'intervalle, le même diplôme ne donne plus accès aux mêmes positions sociales. Avec Bac plus 2, la part de cadres profession intermédiaire a baissé de 89% à 68% entre 1983 et 2018. La part des fils adultes occupant une position sociale inférieure à leur père a doublé d'après l'INSEE, passant de 7,2% à 15%. Le déclassement n'est plus alors un sentiment. Ce déclassement vaut dès les petits boulots, de plus en plus petits, passant aux mini-jobs.
La proportion d'étudiants qui, à côté de la fac, travaillent demeure à peu près constante depuis 2 décennies.
Analyse la sociologue Vanessa Pinto.
En revanche, ce qui a changé, c'est le contenu de leurs emplois. Auparavant, c'était lié à leur cursus, comme pion dans un collège, animateur, ouvreur dans un théâtre, ou donnant des cours particuliers. Désormais, il n'y a plus de lien avec le monde de l'éducation et de la culture. C'est livreur, caissier au supermarché, téléconseiller en centre d'appel.
L'écrasement financier.
J'ai vécu quand j'étais, à un moment donné, adolescent, avec environ 1000 euros par mois, oui.
Confie le président de la République.
Ben, je sais ce que c'est que boucler une fin de mois difficile.
Logé, nourri, blanchi au lycée UP Henri IV, étudiant à Sciences Po, payé par l'État à l'ENA, Emmanuel Macron a connu la pauvreté. Une fin de mois difficile. Et le singulier, rare en l'espèce, prend tout son sens. Cette anecdote fait taire, par avance, de timides revendications. Les vaches maigres, dans la jeunesse, c'est bien normal, ce sont les temps héroïques. Mais ces 1000 euros pour bien des étudiants, ce serait le rêve. En France, depuis 2005, les revenus des jeunes n'ont augmenté que de 67 euros, contre 2900 euros pour les plus de 65 ans. Il en va de même dans toute l'Union européenne. Une stagnation pour les 18-24 ans, mais plus 10% pour les aînés. Encadré. Le manque d'argent ne fait pas le bonheur. Géraud, formation d'éducateur à Lyon.
8 mois que ma vie est suspendue. Macron a dit, Avoir 20 ans en 2020, c'est pas drôle. S'il savait comme il se trompe. Parce qu'il n'est pas question de drôlerie ici. Être étudiant en 2020, c'est terrible. Alors, j'ai commencé par un service civique payé une misère, puis un contrat aidé, très précaire, avant de commencer cette formation non gratifiée. Mais on ne va quand même pas rémunérer des étudiants alors qu'ils se nourrissent de savoir, hein. Tout ça, par épuisement, ça m'a fait rentrer dans un état mélancolique grave qui impacte mes loisirs, ma vie personnelle. En gros, ça fait 8 mois que ma vie est suspendue, sans que personne n'en tienne compte.
Jean, 51, 78.
Sans argent, à devoir vivre chez mes parents. Déjà, avant le Covid, j'étais en recherche de travail, mais elles sont toutes restées vaines. Je me retrouve sans argent, à devoir vivre chez mes parents. La situation devient insupportable. Et puis, le confinement devient une torture psychologique. On est en face de notre ordinateur, sans aucune envie. Et pourtant, on a besoin de cette licence pour aller ensuite essayer de trouver du boulot. Dans un monde où plus personne n'a d'espoir.
Laure, à Nantes.
Je fais les poubelles des supermarchés. 150 euros. On va toucher une aide de 150 euros pour le mois de novembre. Moi, je travaillais dans la culture, des petits contrats. Je me suis retrouvée au chômage pendant le premier confinement et du coup, sans droit aujourd'hui. Mon loyer, il est toujours le même, toujours 460 euros. Ça va que je suis aventureuse, alors à mes heures perdues, je fais les poubelles des supermarchés.
Le pire peut-être ?
C'est une situation à laquelle je m'habitue finalement, presque.
Manon, Rouen.
Dans une spirale atroce. Je viens d'une famille avec peu de moyens, et après mon bac, j'ai dû faire crédit sur crédit pour payer mes études. Mais je n'ai pas pu rembourser le deuxième, 7000 euros. Du coup, impossible d'en prendre un troisième. Je suis donc tombée dans une spirale atroce, devoir emprunter à la banque pour pouvoir financer mon logement, ainsi que mes charges. Je n'en suis d'ailleurs toujours pas sortie. Mon objectif de vie, ce n'est plus d'obtenir ma licence, d'assurer le premier semestre de partiel. Je veux juste sortir de ce tourbillon infernal d'emprunt à la banque. Je me suis retrouvée en grande, grande difficulté. J'ai dû abandonner mes études.
L'écrasement immobilier. Dans certaines zones urbaines, des générations entières risquent d'être tenues à l'écart de la propriété de leur résidence principale.
Voilà ce qu'observe le Crédit Foncier, l'Université Paris-Dauphine, des économistes du logement.
Des fossés intergénérationnels.
Pourquoi ? Le coût des habitations, notamment dans les métropoles, a explosé ces dernières décennies. Il faut payer plus et plus longtemps pour acquérir sa maison ou son appartement. Les aînés ont acheté au bon moment. À bon prix, jusque 1998. Tandis que pour les jeunes qui entrent sur ce marché, la barre est nettement plus haute à franchir. Et pour beaucoup, impossible. Avec, via les loyers, un flux financier qui va de la jeunesse vers les plus âgés, 70% des bailleurs ont plus de 50 ans, avec aussi des tanguis malgré eux. 65% des 18-24 ans et 20% des 25-30 ans vivent chez leurs parents. Et 1 million de jeunes aimeraient en partir. Chez ceux qui ont pris leur autonomie, la moitié vivent avec moins de 939 euros, selon l'Observatoire des inégalités. Le décollage du nid familial se fait plus tardif, plus compliqué. L'écrasement idéologique.
La jeunesse est perçue moins comme une chance que comme une menace. Ainsi, des quartiers populaires dont on se méfie, dont on se protège, aussi parce qu'ils sont un réservoir de jeunes, et à qui on ne propose aucun avenir, juste une occupation.
Je ne vais pas interdire Uber et les VTC,
théorisait Emmanuel Macron.
Ce serait les renvoyer vendre de la drogue à Stein.
Tous des délinquants en sommeil. Et de poursuivre.
Uber embauche dans des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir.
Je corrigerai. Où nous, on ne veut rien leur offrir. Mais hors des cités, la crise du Covid témoigne également de ce regard.
Coronavirus, les jeunes, une population difficilement raisonnable.
Le point.
Un épidémiologiste réclame 10 000 euros d'amende pour les jeunes qui font des fêtes.
LCI.
À Lyon, les jeunes font la fête sans masque sur les berges du Rhône.
France 3.
C'était le refrain médiatique cet automne, avant qu'on ne ferme les universités en priorité. Et qui masquait une autre réalité. Massivement, les jeunes ont consenti au confinement et autres gestes barrières, à des mesures qui leur gâchaient une année et supposément une de leurs plus belles années, décisives d'amour, d'amitié, de rencontres. Et c'est un marqueur tout de même, qu'au moment où ils acceptent ce sacrifice, ils soient néanmoins dénoncés.
L'idée que les jeunes ne se protègent pas, c'est un mythe.
A finalement rétabli le chercheur Jocelyn Rhodes, après une enquête de Santé publique France. Lui pointe en revanche
un risque d'isolement et de perte de liens sociaux plus forts.
Encadré sur le fil du rasoir. Arnaud, étudiant en droit.
Le midi, je ne mange pas. Je suis arrivé dans ce foyer il y a un mois. Mon père est mort et je suis fâché avec ma mère. Alors je suis parti de chez moi.
T'habitais où ?
Dans l'Est. Mais comme j'ai demandé droit et langue, Parcoursup m'a proposé Tours.
C'est pas tout près.
Non, mais ça me va.
Et tu touches une bourse ?
Pas encore. Il me faut l'avis fiscal de ma mère. Mais vu nos relations, ça traîne.
Bah t'as combien alors ?
Zéro. Zéro.
Et comment tu fais ?
Eh bien, pour l'instant, le foyer m'a donné un coup de pouce. Je ne paye pas le loyer, je verse juste mes APL.
Mais pour les livres, par exemple ?
Le code civil ? Je l'ai pas. Je l'ai pas acheté.
Et transport ?
Je marche.
Et pour manger ?
Le soir, ici, on m'offre le repas.
Et le midi ?
Je ne mange pas. Le Crous m'a dépanné 2 ou 3 repas.
Et le petit-déj ?
Ah non, je ne fais pas. Avant que le FJT m'aide, ça faisait 1 semaine ou 2 que je n'avais pas mangé.
Et comment tu faisais ?
Eh bien, je ne faisais pas.
Pierrick Douai, ex-intérimaire chez Amazon.
Je l'ai su qu'une heure avant que je ne reviendrai pas. Ma belle-mère bossait déjà chez Amazon. Elle a pu me pistonner. Ça s'est fait en moins de 24 heures. Elle pose le CV dans la boîte aux lettres à 6 heures. À 9h30, ils m'appellent pour me proposer un entretien. J'y vais à 14 heures, ils me disent « On vous tient au courant ». À 18 heures, ils me rappellent. Et je commence le lendemain à 5 heures.
Ah ouais, c'est l'efficacité à l'américaine là.
Ouais, la cadence c'est pareil, c'est productivité. On est surveillé H24, chronométré, avec des caméras partout, avec le scan. T'as déjà entendu parler des toilettes ? On a un scan avec un GPS et il nous demande de ne jamais le lâcher, sauf quand on va aux toilettes. À ce moment, on doit poser le scan sur un porte-scan et là, le chef, il sait que t'es aux toilettes. Si t'y restes trop longtemps, il t'attend à la sortie. Comme on fonctionne en intérim, on a toujours peur de sauter jusqu'au CDI promis. Moi, ils devaient m'embaucher, mais le confinement a surgi. Ils n'ont pas renouvelé les intérimaires. Je ne l'ai su qu'une heure avant que je ne reviendrai pas. À 18h30, ils t'envoient un message et puis c'est la Madeleine, quoi.
La Madeleine ? C'est quoi ça ?
Sur ton scan, un message apparaît une heure avant de débaucher. Bonjour, peux-tu venir nous voir ? Et quand on monte, il y a une grande table avec du jus d'orange et plein de Madeleine. Et c'est le moment où ils te disent « Merci d'avoir travaillé pour nous. Vous avez fait du bon boulot. Mais au revoir. »
Et t'as fait comment alors durant le confinement ?
J'ai fini mon contrat le 24 mars. Et comme Pôle emploi a été débordé, je n'ai touché mon chômage que fin juin. C'était hyper compliqué. Ma mère m'a avancé de l'argent. On s'est mis ensemble avec des potes dans mon appartement pour ne pas s'isoler et puis pour remplir le frigo. Ils étaient en CDD ou en formation et tout s'est arrêté pour eux aussi. Être ensemble, ça a permis de tenir le coup, quoi.
Et maintenant ?
Il me reste 4 mois de chômage. J'espère avoir rapidement des nouvelles de mon concours d'éducateur sportif. J'ai passé l'écrit en janvier, mais à cause du Covid, toujours, l'oral est retardé. Je vais peut-être retourner chez Amazon, du coup.
Anthony, Lyon.
Une première fausse couche, une deuxième. Ça faisait 10 ans que j'étais en intérim chez Sanofi, à Martigues, là où Macron est venu pour vanter la recherche, les vaccins et tout. Il me prolongeait comme ça en alternant les motifs. Remplacement de poste, c'est 3 ans. Hausse de la production, 18 mois, et il me faisait espérer une embauche. J'étais technicien de recherche, mais chez Sanofi, il y a même des ingénieurs en intérim.
Et comment tu vivais ça, cet intérim prolongé ?
Ça m'atteignait le moral à force. On se sent extrêmement dévalorisé, pas reconnu comme un travailleur à part entière. On avait vraiment l'impression d'être un papier toilette. Et puis l'été, je ne pouvais jamais prendre de vacances avec ma famille. Je devais remplacer les permanents. Ma femme, elle partait seule avec mon fils. Un projet de logement ? C'était impossible. Pas de crédit pour nous. Et on ignore si on sera encore là dans 6 mois. Côté enfant, j'ai fait attendre ma compagne un peu pour le premier. Et puis on s'y est risqué. Mais ma femme en voulait un deuxième. On a attendu, attendu. Et à 40 ans, pour elle, ça devenait la limite. On a essayé. une première fausse couche, une deuxième.
Et aujourd'hui?
Quand Sanofi nous a revendu à Evotech, du coup, on a suivi à Lyon, parce qu'il devait me reprendre après. Mais le Covid est arrivé, et j'ai tout perdu. Ma femme en a eu marre de cette situation, elle est partie, et moi je suis désespéré. Pour rien vous cacher, je sors de 6 mois de dépression. Là-dessus, j'ai déclaré un cancer en début d'année. Je sais pas si c'est lié. Pour l'instant, ça va, je suis sous surveillance. Heureusement, je vois encore mon fils. On est en garde alternée. Sans lui, je serai plus de ce monde.
L'écrasement écologique.
Faut-il rappeler le désastre en cours? En une génération, la mienne, 60% des vertébrés ont disparu. 70% des insectes. À peu près autant des oiseaux, des animaux sauvages. Le vivant se meurt. Limiter le réchauffement à plus 1,5 degré Celsius, comme on souhaitait par le GIEC, relève de la fiction. Les plus 3 degrés Celsius sont déjà garantis. Et les dernières projections nous conduisent plutôt vers 5,5 degrés Celsius à la fin du siècle. D'ici 20-30 ans, le marais Poitevin serait inondé. La mer remonterait jusqu'à Niort-Abbeville. Le climat méditerranéen galoperait vers le nord. La malaria ferait des ravages en Europe. Les rendements agricoles chuteraient. Et c'est par un étrange espoir, par un aveuglement sans doute, n'osant pas y croire, que je maintiens les conditionnels plutôt que le futur simple, très simple. Et qui va écoper cela, bien sûr? Les jeunes. Voilà le bordel que nous léguons. Et quand les...
Youth for Climate.
Sans souci, quelle leur réplique le président Macron?
Défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, c'est sympathique, mais ce n'est pas le problème. Je préfère que tous les vendredis, on fasse de grandes opérations de ramassage sur la rivière ou les plages corses.
Concluant d'un tonitruant.
Qu'ils aillent manifester en Pologne.
Ces écrasements cumulés, conjugués, pèsent sur les esprits. Ils conduisent moins, je le crains, à la révolte qu'à la résignation. Jusqu'à un...
Nous n'aurons pas d'enfants.
Sans doute, proclamé un peu vite, un peu tôt, mais qui demeure un marqueur du renoncement. Jamais, d'après le sondage, jamais les jeunes Français n'ont autant enfermé leur malthusianisme.
Vous remplacez la lutte des classes par la lutte des classes d'âge.
M'accuse Jacques, un abonné. Et Delphine, une désabonnée.
Vous tenez le discours des vieux contre les jeunes.
Ou encore, pour Alain...
Il y a des vieux pauvres et des jeunes riches.
C'est vrai. Le clivage d'âge n'est pas la principale fracture de la société française. Les classes traversent les générations. Chez les plus de 60 ans, le patrimoine des 10% les plus riches est 100 fois plus important.
726 100 euros.
Que celui des 10% les plus pauvres.
7 200 euros.
C'est le même ordre de grandeur, à peu près, pour tous les âges. Soit, soit, soit. Mais faut-il nier les facteurs aggravants? Le genre? La couleur de peau? Ou ici, en l'occurrence, la génération? En revanche, non, Delphine. Nous n'aspirons à aucun discours des vieux contre les jeunes, mais au contraire, à renforcer une solidarité déjà existante, à la déplacer, d'une solidarité familiale, immédiatement financière, à une solidarité politique, partageant des préoccupations, des revendications, les appuyant pour étendre le RSA, pour une révolution de l'immobilier, pour contrôler les contrôles policiers, pour taxer la précarité, etc. Et avec un cortège dans les manifs...
Old Age for Climate.
Un article lu par Mohamed, Aurore, Viviane, Jérôme, Christelle, Margot et Louis.